Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Yeltas Panhaleu. Il est membre des Jeunes Insoumis de Rennes. Il a pris le train et il s'est rendu jusqu'au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors, première radio à Bretagne 5, quelques autres radios déjà chez les confrères, je crois. On va parler de politique ce matin avec une séquence pas banale, on pourrait le dire comme ça, avec ce budget qui était promis quelque part à être passé par 49.3. Michel Barnier en a décidé ainsi. La motion de censure arrive. Elle est portée par la gauche, mais aussi une motion de censure portée par le Rassemblement national. Si on a compris que la gauche, en tout cas l'union de la gauche au Parlement, ne voterait pas la motion de censure du Rassemblement national, le Rassemblement national pourrait, en tout cas il le laisse entendre, voter la motion de censure présentée par la gauche. Alors, pour y voir clair, le gouvernement risque de tomber dans les heures qui viennent.
Oui, tout à fait. En fait, là, depuis un certain nombre de semaines, on voit un gouvernement qui est en train complètement à la dérive. Et malgré le travail parlementaire qui a été fait depuis un certain nombre de semaines, le gouvernement a décidé de passer en force, utiliser le 49.3. Et donc, aujourd'hui, il va récolter ce qu'il mérite, c'est-à-dire, du coup, la censure.
Alors la censure, ça veut dire une période d'incertitude. Alors on entend beaucoup, hein, au gré des chaînes info et des émissions radio, les représentants de ce qui est convenu d'appeler la minorité présidentielle aujourd'hui s'exprimer et prévoir le chaos quelque part. La France pourrait s'arrêter, on parle de shutdown à la française. Enfin voilà, beaucoup de choses qui font un peu peur aujourd'hui. Est-ce que selon vous, on va aller vers un blocage du pays ou est-ce que finalement la haute administration va faire le travail?
Moi, ma certitude, en fait, c'est que le shutdown, en fait, à la française n'existe pas. Le gouvernement démissionnaire peut très bien, en fait, appliquer, du coup, payer les fonctionnaires par décret, en fait, jusqu'au moment où un nouveau budget va pouvoir être présenté. Je voudrais aussi rappeler que nous sommes le 3 décembre et qu'il reste encore, du coup, un certain nombre de semaines avant le 31 décembre et la nouvelle année. Ce qui fait qu'on peut tout à fait nommer un nouveau gouvernement, par exemple du NFP, qui pourra en fait adopter un nouveau budget qui est issu du coup de la volonté des Français, c'est-à-dire un programme social, de justice sociale, d'emploi, tout ce que les Français en fait aspirent finalement.
Voilà, on les entend, les Français, ils se sont exprimés pendant les différents scrutins, on l'a vu lors des dernières législatives avec une forme quand même de protestation qui s'est tournée vers le Rassemblement National et vers le NFP. Est-ce qu'il y a une recomposition finalement de la vie politique avec d'un côté, alors vous me permettrez de prendre un terme qui va peut-être vous fâcher, mais l'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, et un affaiblissement des partis traditionnels, on pense aux Républicains, on pense au Parti Socialiste.
Alors déjà, je voudrais souligner que depuis 7 ans, en fait, on a, enfin même depuis 8 ans, on a le macronisme qui est en train vraiment de s'essouffler. Je rappellerai quand même que ce mouvement politique a eu un énorme vote sanction durant les européennes ainsi que durant les législatives. Aujourd'hui, les principales forces politiques sont le NFP. Et en fait, c'est une composante qui est diverse, que ce soit les écologistes, les socialistes ou la France insoumise. Nous, nous représentons du coup le camp de la justice sociale. C'est pour ça auquel on se bat. Le mot social a été complètement oublié depuis un certain nombre d'années. Donc nous, on veut le remettre au devant de la scène. Donc maintenant, en fait, c'est notre responsabilité en fait de proposer du coup un budget, par exemple, qui puisse répondre à l'attente des Français. Et les Français, en fait, ont élu des députés NFP, comme on appelle, pour qu'ils puissent, en fait, répondre à un certain nombre de mesures qui, aujourd'hui, semblent prioritaires, en fait. Que ce soit le pouvoir d'achat, en fait, vraiment, c'est des choses qui sont très concrètes et qui appellent à une majorité claire, qui a été élue sur un programme clair, et le NFP répond au mieux à ces attentes.
Alors, Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les majorités sont très proches les unes des autres, donc il n'y a pas une majorité qui se dégage. Il y a cette fameuse majorité relative hein, dont on parle beaucoup. Ça va être dur, même si demain, on voit arriver un nouveau Premier ministre qui sera nommé. Alors, on dit que le président de la République est actuellement en déplacement aux Émirats Arabes Unis, veut aller très vite pour nommer un nouveau Premier ministre, mais on risque à nouveau de se retrouver dans une situation de blocage. Comment faire pour sortir de ce blocage comment opérer pour oui, que sûr. Finalement on arrive à avoir ce fameux budget qu'on appelle de nos voeux.
Alors déjà, première chose, ce blocage institutionnel, c'est pas nous qui l'avons provoqué. Hein, globalement, c'est Emmanuel Macron qui s'est mis tout seul dans cette situation, en passant en force durant la législative de 2024, en dissolvant l'Assemblée nationale et se retrouvant en fait avec un gouvernement ultra minoritaire, en faisant une alliance avec des groupes comme les Républicains ou l'ancien bloc présidentiel. Aujourd'hui, on se rend compte que cette alliance, c'est en train de s'effriter et complètement est en train de s'effondrer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le nouveau Front populaire a une majorité, un programme et une volonté de gouverner. Aujourd'hui, Michel Barnier, on le voit bien, est dans l'impasse qui appellera en fait finalement à une censure. Nous, ce qu'on propose, c'est un gouvernement NFP qui puisse prendre en charge le budget. Et par exemple, si le président de la République s'obstine à vouloir nommer un Premier ministre d'un autre bord politique et qu'on le sait se fera censurer, nous, on appellera à sa démission. Parce qu'au final, en fait, on ne peut pas continuer dans une situation où le président continue à nier les résultats législatifs depuis un certain nombre de semaines et même de mois, et faire comme si le Parlement n'avait aucun pouvoir à s'immiscer dans une vie politique qui n'est pas la sienne. C'est un pouvoir législatif. Lui, il représente l'exécutif. Et en fait, voir un président qui commence à faire des arbitrages politiques et s'immiscer dans la vie parlementaire française, c'est extrêmement grave. Moi, j'aimerais bien voir, en fait, les autres pays qui ont un parlement qui, lui, fonctionne avec vraiment un pouvoir législatif qui est une autorité, voir comment ça se passe en France et juste se rendre compte de l'absurdité de la chose.
Alors, vous lâchez le mot, hein, demander la démission hein, du président de la République, Emmanuel Macron. Peut-il encore tenir à l'Élysée finalement, puisque on sent quand même que l'époque est crépusculaire pour le pouvoir en place. On a l'impression d'une usure aussi du pouvoir et d'un rejet des Français. Ils ont été 11 millions à voter, par exemple, pour le Rassemblement national qui monte, en tout cas dans l'opinion publique, et qui va voter la motion de censure aux côtés de NFP. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, ça?
Alors, déjà, pour une première chose, en fait, le NFP, enfin, les parlementaires utilisent les outils qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir, en fait, donner un stop au gouvernement. Nous, c'est pas de notre faute si on se retrouve dans une situation telle. Ça fait quelques semaines que vraiment les députés travaillent pour faire adopter un budget qui réponde à l'attente des Français, et pour le coup vraiment le NFP et la France Insoumise a vraiment répondu pleinement à ces attentes, a vraiment fait un travail de fond, et donc voir un budget qui est balayé d'un revers de main par le 49-3, c'est vraiment une image du parlementarisme qui est très 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 dure à avaler, parce que en fait à quoi ça sert le Parlement si tout le travail d'amendement qui a été fait est balayé d'un revers de main?
Donc du temps perdu finalement, puisque là l'adoption par 49-3, on revient au texte initial hein, présenté par Michel Barnier, c'est du temps perdu. Il faut aussi repenser les institutions. Là, c'est une deuxième question un peu dans la qui découle de la première, mais on parlait du crépuscule du président de la République tout à l'heure. Il faut repenser les institutions. Il faut passer à la 6e République, comme on a entendu beaucoup le NFP le prôner, et particulièrement la France Insoumise, par la voix de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, ça, c'est un programme qui est essentiel dans l'avenir en commun. C'est le passage à la 6e République. Nous, on dit depuis des années que les institutions de la Ve République sont à bout de souffle, qu'elles ne peuvent plus faire fonctionner ce régime ultra-présidentialiste qui est celui de la Ve République. Nous appelons bien évidemment à la Ve République, enfin à la Sixième République, à une nouvelle constituante. Là maintenant, par contre, ce que nous appelons, c'est déjà un gouvernement qui réponde à l'attente des Français, parce que au final, le travail qui a été fait d'amendement, en fait, vous pouvez pas arriver avec du coup un gouvernement Barnier expliquer que vous prenez le dialogue, etc., et faire fi de 190 députés NFP qui ont travaillé sur un budget pendant plusieurs semaines. En fait, c'est la base c'est la base des travaux parlementaires. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été vu. Les députés NFP ont voté la première partie du budget, mais pour autant, en fait, ça passe en 49-3. Mmh. Pour dire qu'il y avait quand même un consensus à un moment donné.
Il y avait un dialogue, finalement.
Oui, il y avait un dialogue.
Il y a eu une écoute. On a reproché beaucoup au NFP d'imposer finalement, alors peut-être de demander l'imposition de ceux qui peuvent plus payer pour pouvoir essayer de trouver des recettes pour ce budget qui est difficile, on l'aura compris, à boucler. Ça nous ramène aussi à qui a creusé le déficit, là encore.
Bah, tout à fait. En fait, aujourd'hui, si on se retrouve avec une situation budgétaire telle, j'ai pas envie de dire que c'est le NFP qui a les clés du camion depuis plusieurs années. C'est indirectement la faute de la politique de Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie, et qui a en fait fait complètement sombrer le pays. Moi, je trouve que le gouvernement a été complètement irresponsable de leur part, et qu'aujourd'hui, c'est une faute de la Macronie de voir que c'est une politique qui n'a pas marché. Donc nous arrivons avec des solutions, et derrière, on nous dit « c'est pas les bonnes ». Et en fait, juste, si vous nous proposez ce qui a été fait pendant 7 ans, 8 ans, c'est juste pas la bonne chose, en fait. Mmh. Ça ne marche pas comme ça. Donc nous avons des solutions, eux font la même chose, ça ne marche pas. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne chose de voir, en fait, que vous avez perdu les élections, mais vous continuez quand même dans le mur à vous obstiner, à appliquer quelque chose qui ne marche pas et qui ne fonctionne pas.
Alors on parlait tout à l'heure des alertes des Français qui se sont tournés vers le NFP d'un côté et vers le Rassemblement National de l'autre. Ces Français qui peinent à boucler leur fin de mois, il y a une grande attente sociale. Ces Français qui craignent aussi pour leur emploi. On voit aujourd'hui des fermetures de sites de grandes industries. C'est le cas ici en Bretagne, on pense à Michelin en particulier. Toute cette angoisse, toute cette attente sociale, ça corrobore aussi une attente financière. Les Français veulent payer moins d'impôts, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. On a finalement un fonds social un peu explosif aujourd'hui.
Ah, tout à fait. Là, on se retrouve avec, après 8 ans de Macronie, vraiment une difficulté pour les Français, en fait, à vivre de leur travail. Ça, c'est quelque chose qu'on le voit très clairement. Hein. Moi, je suis désolé, quand Bruno Le Maire arrive et dit « oui, la réindustrialisation de la France, etc. », moi, je la vois pas. Mmh. Aujourd'hui, on ferme des milliers d'emplois dans l'industrie et avec des entreprises qui peuvent partir à l'étranger en touchant quand même des aides de l'État. Je trouve ça vraiment un manque de respect total. Et en fait, moi, je pense que l'État doit reprendre un rôle au cœur de l'économie française.
Il faut remettre plus d'État dans l'économie française.
Tout à fait. Mmh. Prenez, la réindustrialisation du pays, mais pas en faisant des cadeaux fiscaux aux entreprises, mais en prenant directement les rênes de l'industrie et en réimplantant, du coup, des sites industriels. Moi, par exemple, j'ai mon père qui travaille à l'usine, l'usine de la Jeannet, à Rennes, qui est un grand centre industriel en Ille-et-Vilaine. On sait que Stellantis a des difficultés financières. Si demain, l'entreprise était amenée à fermer, ça serait une catastrophe sociale pour toute la région. Et en fait, moi, je me mets à la place des ouvriers qui sont à Cholet ou à Vannes, et surtout à la place de leur famille. Comment on va faire pour pouvoir payer, boucler les fins de mois, payer les factures si on commence à perdre nos emplois? Et ça, c'est quelque chose qui se voit depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement n'a rien fait. Ils sont là à dire que c'est fantastique, regardez la réindustrialisation de la France, machin. Personne ne la voit. Personne ne la voit.
On a oublié finalement la chose humaine dans cette gestion alors, que vous appelez libérale, hein, finalement. On a oublié les drames humains qui vont avec les fermetures d'entreprises et qui amènent aussi la colère sociale.
Ah bah oui, tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, si on a une colère sociale telle, c'est que en fait on a marché sur les travailleurs de ce pays. Moi, je pense que le plus essentiel dans ce pays, c'est vraiment en fait les travailleurs qui se lèvent du coup le matin pour aller produire et créer des choses. Moi, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ce travail, on marche dessus en fait. Personne, enfin, les macronistes ne le respectent pas. Et on veut que les Français puissent pouvoir vivre de leur travail avec un système social fort, que la cotisation continue, que les services publics puissent vivre et que voilà quoi.
Il y a une forte attente, hein, on l'aura compris, il y a une forte attente aussi des jeunes générations. Alors, je vous tends la perche, vous êtes jeune étudiant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je lisais tout à l'heure que c'est journée morte dans les universités qui demandent plus de moyens là aussi. Est-ce qu'il faut, alors, sans dire on va faire du jeunisme, mais est-ce qu'il faut tourner la page d'une certaine politique et aller vers autre chose, imaginer le monde de demain?
Eh bien déjà, le monde de demain, ça commence par soutenir nos universités. Là aujourd'hui, un certain nombre d'universités en France se retrouvent en déficit. Moi, je voudrais rappeler que par exemple Rennes 2 est en risque de mise sous tutelle, c'est-à-dire quand l'État reprend directement les finances de l'université pour faire des coupes budgétaires énormes et appliquer l'austérité. Donc ça, c'est une alerte déjà à avoir, et que on ne forme pas les travailleurs et les travailleuses de demain, les ingénieurs, les travailleurs, les fonctionnaires, avec des universités à moitié financées, en fait. Ça va en pâtir, un certain nombre de personnes ne vont plus pouvoir faire d'études, et que directement ça va nuire au travail de ce pays, en fait.
À la qualité aussi de l'enseignement, enfin en tout cas, on voit des jeunes aussi qui partent à l'étranger pour faire leurs études, ceux qui peuvent, voilà, parce qu'ils trouvent pas chaussures à leurs pieds en France, finalement.
Bah, c'est déjà une petite minorité, parce qu'en fait, à partir du moment où les étudiants ne peuvent pas payer leurs études en France, c'est de toute façon, en fait, un étudiant qui ne va pas étudier et qui va finalement se mettre à travailler et qui ne va pas, par exemple, répondre à ses aspirations qu'il avait. Et ça, c'est quelque chose de très disparate, parce que c'est en fonction de la situation sociale familiale, qu'un étudiant ou une étudiante puisse ou non faire des études. Et ça, pour nous, c'est pas supportable. Hein, normalement, en France, on est censé prôner l'égalité des chances, la possibilité que un fils d'ouvrier puisse quand même aller à l'université. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit.
Avec beaucoup de précarité étudiante, on en parle souvent sur cette antenne, mais on le rappelle à chaque fois, des étudiants qui ne trouvent pas de logement, hein, c'est le cas à Rennes d'ailleurs, ou qui dorment dans leur voiture parce que voilà, faute de mieux, ça fait aussi partie de la réflexion politique future.
Oui, tout à fait. Le savoir bien vivre dans les métropoles, par exemple à Rennes, on sait que c'est une des plus grosses villes étudiantes du pays, et on le voit, une tension locative qui est absolument immense, des étudiants qui à chaque rentrée se retrouvent sans logement, qui sont obligés d'aller vivre chez leurs parents à un certain nombre de kilomètres qu'ils doivent faire tous les matins. Pour nous, c'est pas acceptable. Pardon.
Alors, justement, situation politique difficile pour les étudiants, difficile pour les personnes qui travaillent aujourd'hui, difficile pour les retraités qui descendent aussi dans la rue aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a des retraites qui sont misérables. Si on peut se tenter que... Pardon.
Je vous en prie.
Donc, des retraités, en fait, qui, déjà... s'ils puissent venir jusqu'à la retraite, parce qu'on continue à reculer l'âge de départ à la retraite, et ça, c'est une honte. Moi, je rappellerai quand même que la France Insoumise a proposé dans sa niche parlementaire l'abrogation de la réforme des retraites, qui a été bloquée par les députés de l'ancienne majorité présidentielle, la minorité présidentielle, et qui aujourd'hui, en fait, nous explique que quand vous avez 62, 64, vous pouvez continuer à travailler. Sauf que non, c'est pas possible. Hein. Globalement, moi, je connais des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui, à partir de 60 ans, sont complètement cassés et qui n'ont qu'une seule chose, envie d'aller à la retraite. Et les pousser toujours plus à continuer à travailler, c'est juste les mener du coup à la mort, en fait. Mmh. Hein, les empêcher qu'un certain nombre de personnes puissent toucher leur retraite.
Il faut renouveler les générations, là aussi. J'allais pas se dire, vous allez me griffer, mettre les jeunes au travail.
Tout à fait. L'emploi chez les jeunes est une priorité, enfin une problématique pour un certain nombre de personnes. On sait qu'il y a beaucoup de chômage chez les jeunes, qu'il y a un certain nombre d'emplois quand on sort des études qui n'est pas pourvu parce que bah il y a pas les attentes qu'il faut. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit avoir une vraie politique interventionniste dans l'État qui puisse en fait derrière offrir à un certain nombre de jeunes diplômés, que ce soit dans l'enseignement professionnel, technologique ou supérieur, et leur offrir un travail qui répond à leurs attentes qu'ils ont depuis toujours.
Alors, vous parlez de l'enseignement professionnel. Souvent, on a pointé du doigt cet enseignement professionnel en disant, voilà, c'est ceux qui ne vont pas vers les grandes études, qui vont finalement aller vers les bacs pro ou autre chose. Aujourd'hui, il y a une revalorisation du travail, une revalorisation des bacs pro, tenez. Il faut penser à l'apprentissage, il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas envie et celles qui n'ont pas envie de faire de grandes études.
Bah, tout à fait. En fait, on est une société et une société doit être en fait équitable et où la personne est au cœur de chaque décision. Et là, on le voit bien, les personnes qui sont dans le professionnel sont vraiment une richesse énorme. Dans ce pays, en fait, on a des professionnels, enfin des ouvriers qualifiés qui font des choses qui sont extrêmement importantes, qui font des travaux extrêmement techniques et qui ont besoin d'une formation lourde. C'est pas parce qu'on fait pas d'études supérieures qu'on fait des études plus faciles, non, pas du tout. Vous avez des dizaines d'ouvriers qualifiés qui ont une maîtrise de leur travail qui est absolument colossale. Et donc aujourd'hui, en fait, ne pas permettre à des jeunes de pouvoir se former dans des travaux qui sont dans le travail qui est technique, que ce soit dans l'industrie automobile, dans l'industrie ferroviaire, etc., en fait, c'est fermer des postes et que derrière, en fait, on ne sache plus produire, en tout cas en France.
Alors, il y a aussi autre chose, c'est l'engagement des jeunes en politique. J'en reçois beaucoup à ce micro. Vous en faites partie, Yeltas.le. Ces jeunes qui s'engagent en politique, qui ont envie, en fait, de voir évoluer la politique qui a été peut-être pratiquée par leur devancier. Quel est le regard d'un jeune comme vous sur la chose politique aujourd'hui, sur le fonctionnement des institutions? Tenez, là encore, ça nous ramène au budget. Est-ce que les jeunes aujourd'hui ont envie de plus de s'impliquer dans des combats, dans des luttes, que dans le combat politique, ou les deux sont possibles?
Les deux sont possibles. Aujourd'hui, en fait, vous avez des jeunes qui ont majoritairement en fait appelé le NFP au pouvoir. Et moi, je trouve qu'on peut être fier de nos députés en fait qui ont apporté un travail de qualité durant ce budget, des députés NFP qui ont été sérieux durant tout le budget. D'ailleurs, oui, vous avez des personnes, des jeunes qui s'investissent dans des luttes, que ce soit les luttes féministes, les luttes écologistes, les luttes sociales, ça peut être divers et varié. On les retrouve dans des associations et c'est des gens en fait qui s'investissent pleinement. Et en fait, vous avez un certain nombre de personnes qui sont aussi dégoûtées de la police. Pardon.
Je vous en prie, c'est le petit chat dans la gorge du matin.
Ouais, tout à fait. Vous avez un certain nombre, de jeunes qui sont dégoûtés par les institutions, en fait, qui ne voient pas, en fait, où leur mène tout ça, et qui s'investissent différemment. Donc moi, je suis fier de voir ma génération qui s'investit pleinement dans un certain nombre de luttes. Derrière, en fait, juste, c'est à nous de construire le monde de demain. Et vu ce qu'ont fait nos dirigeants dans les années 2000, 2010 et 2020, on n'a qu'une seule chose, c'est de changer les choses et de pouvoir en fait arrêter tout ce qui n'a pas marché en fait jusque-là.
Alors, on parlait tout à l'heure de ce possible renversement du gouvernement. On garde toujours une petite mesure hein, dans l'analyse. On voit aussi des jeunes qui s'engagent dans l'autre camp, comme l'on dit, au Rassemblement national, qui ont aussi des espoirs, des aspirations. Est-ce que vous arrivez à les rencontrer, à discuter avec eux ? Peut-être un peu viril parfois, mais est-ce que vous arrivez à comprendre leur démarche ?
Alors moi, je n'ai pas de lien avec des personnes qui votent Rassemblement National ou qui sont militants au Rassemblement National. Ils ont un engagement politique qui n'est pas celui que je défends, qui n'est pas celui que j'adhère. Moi, je veux quand même rappeler que majoritairement, les jeunes sont quand même engagés dans le NFP. Après, c'est sûr, il existe un certain nombre de jeunes qui, eux, adhèrent au Rassemblement National. Mais après, c'est pas pour autant que je trouve que c'est un choix judicieux. Pour moi, le Rassemblement National ne répond pas à l'attente des Français. Ils n'ont pas la volonté d'aller vers une rupture. Qui est celle que nous on prône au NFP, c'est-à-dire plus de justice fiscale, c'est-à-dire une meilleure répartition des richesses. Ça on le voit hein, dans les votes qui ont été faits au budget. Donc voilà, moi je pense que c'est très différent les visions de la société qu'on prône eux et nous. Et moi je suis très content d'être engagé au NFP. Et j'espère que cet engagement sera de plus en plus massif pour les jeunes, quoi.
Avec justement cette notion de censure qui va arriver, on va arriver, on le disait en commençant cet entretien, dans une grande période d'instabilité. Ce soir, le Premier ministre va s'exprimer donc sur les antennes de TF1 et de France 2. Vous en attendez quoi de cette intervention? Un sursaut ou finalement pas grand chose?
Pas grand chose, vraiment pas grand chose. Moi, je m'attends pas à ce qui va arriver et dire oui, au final. En fait, nous avons eu tort, les députés du NFP avaient raison. Non, globalement, en fait, la seule ligne de sortie qu'il a pour lui et son gouvernement, c'est la démission. Aujourd'hui, on peut attendre du coup à ce qu'il fasse un certain nombre d'annonces vers le Rassemblement National. Nous, par contre, ce qu'on défend, c'est globalement une démission du gouvernement qui ne répond pas à l'attente des Français, qui passe en force et qui n'a pas l'objectif de changer les choses réellement. Donc pas grande attente. Par contre, très pressé que le gouvernement soit renversé.
Alors, s'il est renversé, ça ouvre encore les perspectives, je dis encore, hein, on est dans une période décidément très spéciale, mais ça ouvre encore des perspectives d'un nouveau Premier ministre, on le disait là aussi en commençant. Le nom de Lucie Castet commence à revenir dans le devant de l'actualité, mais on entend aussi d'autres noms, comme Sébastien Lecornu, comme Gérald Darmanin. J'ai un peu l'impression qu'on va repasser des plats, si vous me permettez.
Alors, déjà, nous, ce qu'on défend depuis les élections législatives, c'est la mise en place d'un gouvernement NFP. Hein.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron va...
Bah, nous, c'est pas Emmanuel Macron de choisir qui est majoritaire dans le pays ou pas. En fait, nous, il y a eu des élections, les résultats ont été très clairs, c'est le NFP qui est arrivé en tête.
Et c'est lui qui choisit le Premier ministre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, lui, il n'a pas, par contre, à se mêler d'arbitrage législatif. Hein, c'est le représentant du pouvoir exécutif. Donc maintenant, en fait, il doit prendre acte des élections et mettre en place, le NFP au pouvoir. Après, c'est pas lui qui doit faire les arbitrages, de voir, en fait, qui est majoritaire ou pas. Non, ça marche pas comme ça. Donc, le NFP doit être appelé à gouverner. S'il n'est pas appelé à gouverner, c'est globalement en fait un appel à sa démission, parce qu'en fait il continuera dans le blocage institutionnel et on ne pourra pas fonctionner pendant les deux prochaines années comme ça.
Voilà, la suite bien va s'écrire et on va continuer à commenter cette actualité, voir ce qui adviendra. Merci infiniment à Yelta Spahn, le membre des Jeunes Insoumis de Rennes, d'avoir été avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci Stéphane Hamon.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.